à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Eric Manirakis en direct de la capitale américaine. Mardi 5 février 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir,
Centrafrique, le pouvoir et 14 groupes armés ont scellé à Khartoum un accord de paix, le 8e depuis 2012.
Sommet à Ouagadougou des chefs d'État du G5 Sahel pour tenter de stopper la spirale djihadiste.
Le pape François à Abu Dhabi pour une rencontre interreligieuse internationale, une première dans la péninsule arabique.
Traditionnel discours sur l'état de l'Union ici aux États-Unis, le président Donald Trump s'exprime ce soir devant le Congrès.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal.
Les chefs d'État du G5 Sahel réunis pour un sommet à Ouagadougou doivent aborder la situation sécuritaire au Burkina Faso où les attaques djihadistes se multiplient avec 14 personnes tuées lundi. Nathalie Barge.
L'Union africaine exprime sa solidarité et sa compassion au gouvernement et au peuple burkinabé et les encourage à se mobiliser pour résister ensemble aux actions de déstabilisation des groupes terroristes, a déclaré Pierre Buyoya, représentant de l'Union africaine à ce sommet. Lundi, 14 civils ont été tués dans le nord du Burkina Faso. En riposte, l'armée dit avoir mené des raids et affirme avoir tué 146 djihadistes. À Ouagadougou, un important dispositif sécuritaire a été mis en place pour ce sommet. La circulation a été interdite sur le tronçon menant de l'aéroport à la salle des conférences à Ouaga 2000. L'état d'urgence a été décrété depuis le 1er janvier dans 14 provinces, permettant aux forces de sécurité de procéder à des perquisitions à domicile de jour comme de nuit. Le président Roch Marc-Christian Caboret a limogé en janvier le chef d'état-major des armées et remplacé les ministres de la Défense et de la Sécurité.
On devrait connaître les conclusions de ce sommet dans les prochaines minutes. Le sommet est déjà terminé à Ouagadougou. Au Nigeria, Boko Haram a tué au moins 6 personnes dans le nord-est du pays. Des djihadistes ont ensuite volé des véhicules, pillé des commerces avant d'incendier des habitations. L'intervention des militaires nigériens basés à Madagali a délogé les djihadistes qui se sont enfuis vers la forêt de Sambisa, leur bastion.
Un nouvel accord de paix pour mettre fin à des années de violence en Centrafrique. Le gouvernement et des groupes armés ont paraphé à Khartoum au Soudan un document sanctionnant 2 semaines d'intenses négociations. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le texte appelé l'accord de Khartoum a été paraphé par le président Faustin Archange Touadéra et les 14 groupes armés en présence du président Omar El-Béchi et de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. L'accord de Khartoum ouvre la voie au retour de la paix dans notre pays. Il est maintenant temps d'ouvrir une nouvelle page pour la Centrafrique, a déclaré le président Touadéra. Parlant au nom des groupes armés, Herbert Gontran Diono Araba, aussi ministre de l'Énergie, a estimé que les difficultés commencent maintenant avec l'application de l'accord crucial pour la paix. D'après le gouvernement, la signature de ce texte aura lieu à Bangui dans les prochains jours. Aucun détail de l'accord n'a été révélé. Le contenu sera rendu public après la signature, selon Firmin Grébada, chef de la délégation gouvernementale. Bangui a toujours refusé une amnistie pour les chefs de guerre. En plus de l'amnistie, les groupes armés exigeaient la formation d'un gouvernement de sortie de crise avec un premier ministre issu de leur rang. Ils réclamaient aussi la mise en place de patrouilles mixtes avec les forces armées centrafricaines pour sécuriser le territoire dont ils contrôlent une grande partie. Depuis 2013, 7 accords de paix ont été signés, mais aucun n'a été respecté.
Première visite à l'étranger de Félix Tshisekedi, nouveau président de la RDC. Il a défendu à Luanda la légalité de sa victoire contestée et a aussi vanté l'alternance pacifique dans son pays, tout en reconnaissant des irrégularités au cours du processus électoral. Monsieur Tshisekedi a confirmé qu'il était prêt à partager le pouvoir avec le camp de son prédécesseur, qui a gardé la majorité des sièges à l'Assemblée nationale.
Au Gabon, le blogueur Hervé Mombo Kinga a retrouvé aujourd'hui sa liberté après 17 mois de détention préventive. Il avait été arrêté le 31 août 2017 pour avoir projeté des vidéos hostiles au pouvoir.
Au Madagascar, le Parlement a autorisé le président André Ajoelle à légiférer par ordonnance en attendant la tenue des législatives prévues le 27 mai prochain. Le texte a été adopté pour permettre au chef de l'État de prendre ses premières mesures rapidement. Monsieur Ajoelle a notamment annoncé la construction d'une conduite d'eau de 225 km pour alimenter le sud du pays frappé par la sécheresse.
Au Soudan, la police a dispersé des rassemblements d'enseignants et d'avocats. Ils avaient organisé des manifestations séparées à Khartoum et dans plusieurs autres villes pour demander la démission du président Omar el-Béchir. Ce mouvement de contestation inédit a été déclenché le 19 décembre par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain.
Et les autorités de Zambie ont annoncé l'arrestation du ministre des Routes, Ronald Chitotela, dans une affaire de corruption. Monsieur Chitotela est soupçonné d'avoir caché détenir une propriété acquise par le biais d'un crime.
Attaque armée contre un barrage à El Wadi El Jadid dans le centre de l'Égypte. 4 policiers ont été blessés à la suite d'un échange de tirs avant que les assaillants ne prennent la fuite. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué l'attaque via son agence de propagande.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain doit prononcer ce soir son discours traditionnel sur l'état de l'Union devant le Congrès. Il devrait lancer un appel à l'unité malgré un climat politique tendu à Washington et à son projet de mur à la frontière avec le Mexique. Raissa Gironde.
Ce soir, le président américain doit s'exprimer devant les deux chambres réunies du Congrès. Initialement prévu fin janvier, ce discours a été reporté par Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, en raison de la paralysie partielle de l'administration fédérale. La Maison-Blanche et la nouvelle majorité démocrate sont à couteau tiré sur le financement du mur à la frontière avec le Mexique. Donald Trump a promis de faire un appel à l'unité et au compromis. Ensemble, nous pouvons mettre fin à des décennies de blocage politique, guérir des blessures anciennes, construire de nouvelles coalitions, esquisser de nouvelles solutions, devrait-il affirmer selon des extraits diffusés par la Maison-Blanche. Le discours, prévu à 21h, sera succédé, comme à l'accoutumée, de la réplique démocrate. Stacey Abrams, femme noire et figure montante de son parti, est chargée de répondre au discours présidentiel.
Aux États-Unis toujours, des procureurs fédéraux de New York exigent du comité chargé d'organiser la cérémonie d'investiture de Donald Trump en janvier 2017 de leur remettre des documents liés aux dons et aux dépenses. Selon les médias américains, les procureurs enquêtent sur des faits de conspiration, fausses déclarations, fraude postale, fraude électronique, blanchiment d'argent, non-respect des obligations de déclaration ou des lois interdisant les contributions par des pays étrangers et les contributions pour compte de tiers. Selon une chaîne de télévision américaine, l'enquête concerne des malversations sur 10 millions de dollars de dons.
100 millions de dollars de dons. Et le pape François a achevé sa visite historique aux Émirats Arabes Unis par une grande messe en plein air de l'inédit dans un pays musulman qui autorise la pratique de la foi chrétienne à condition qu'elle se déroule dans des églises. Les précisions de John Lyndon.
Plus de 2000 bus ont transporté gratuitement des fidèles venus de tout le pays jusqu'à Abu Dhabi. Un organisateur a évoqué la présence de 170 000 personnes à la messe, à l'intérieur et à l'extérieur du stade Zayed Sports City, placé sous haute sécurité. Un rassemblement inédit d'une centaine de nationalités selon l'église locale. Environ 1 million de catholiques vivent aux Émirats, soit près d'un habitant sur 10. Dans ce pays observant un islam plus modéré que ses voisins, la présence de lieux de culte chrétiens fréquentés par des étrangers est tolérée, à condition que ces derniers restent discrets. Aucune célébration ne peut toutefois être faite publiquement et la messe de mardi revêt un caractère exceptionnel. Dans un long discours lundi devant des responsables de toutes les religions, le pape François a aussi insisté sur l'impératif de la liberté religieuse qui doit aller au-delà de la simple liberté de culte. Le souverain pontife et le grand imam sunnite Cheikh Ahmed Al-Tayeb ont publié un texte appelant à la liberté de croyance, d'expression, à la protection des lieux de culte en prônant une pleine citoyenneté pour les minorités discriminées.
La Russie s'est donné 2 ans pour développer un nouveau type de missile terrestre, décision prise suite à la suspension par Washington et Moscou du traité de désarmement nucléaire INF, faisant craindre une nouvelle course aux armements.
Et fausse alerte à la bombe en Russie toujours. Plus de 50 000 personnes ont été évacuées d'environ 90 bâtiments publics, de centres commerciaux et d'écoles à Moscou et dans sa région.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
Dès le mois d'avril, la Guinée équatoriale va vendre aux enchères la licence de la zone appelée Bloc R avec le projet de développement gazier Fortuna ainsi que les anciens blocs de pétrole et de gaz d'Ophir. Le ministère équato-guinéen du pétrole assure qu'il s'agira de la première licence qui comportera une zone d'exploration et une zone en développement. Le cycle des licences d'avril offrira au moins 7 blocs, mais 6 autres pourraient être ajoutés si des blocs supplémentaires étaient réclamés aux concessionnaires qui ne confirmeraient pas leur forage avant avril, comme Exxon, Cosmos Energy, Marathon Oil et Noble Energy. L'Éthiopie finalisera les réformes de ses secteurs miniers et pétroliers dans les 2 prochains mois pour encourager davantage d'investisseurs étrangers et atténuer son déficit financier. Ces réformes incluent tous les régimes fiscaux afin de concurrencer pour les investissements miniers mondiaux. Pour accompagner ces mesures, le gouvernement éthiopien va réformer toutes les lois, y compris la politique minière nationale et la stratégie associée à cette politique. Terminons avec l'Égypte qui vise une croissance de son produit intérieur brut de 5,6% pour l'exercice qui sera clos en juin. Ce taux est légèrement en dessous de son objectif précédent de 5,8%. Le gouvernement vise une croissance de PIB de 6% pour 2019-2020.
Et sans tarder, nous ouvrons votre page des sports avec Yacouba Ouédraogo ce soir. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Direction d'abord à Matadi, au Niger, où se joue la CAN des moins de 20 ans.
Oui Eric, Maradi où le Mali et le Burkina Faso s'affrontent demain à 13h30 heure locale, 12h30 temps universel, pour raison d'insuffisance de lumière dans le stade de Maradi où est logée la poule B. C'est la 2e sortie des 2 derniers du groupe tombés respectivement face au Sénégal et au Ghana lors de leur premier match. Aiglon du Mali et Étalon Junior du Burkina n'ont pas d'autre choix que de gagner s'ils veulent continuer la compétition. Les entraîneurs en sont conscients, écoutons celui du Burkina, Séraphin Dagani.
Ce match, il est capital pour les 2 équipes. Hein. Je gagne, je reste. Je perds ou je rentre chez moi. Et moi, si je vais aborder le match, je vais tenter de gagner. Je vais chercher à gagner. On cherche à gagner. Obligatoirement, il faut gagner. Si les enfants ne sont pas crispés, le match sera encore plus intéressant, plus beau que les 2 matchs que nous avons vus, que nos 2 équipes ont livrés. Le Mali est d'un cran supérieur à nous parce que à toutes les fois que nous avons rencontré le Mali dans les petites catégories, en tout cas, on a toujours baissé la tête. Ce que je souhaite et ce que je pense, peut-être que la tendance va se renverser en commençant par demain.
Situation identique pour le Mali, comme nous le fait savoir son technicien Mamoutou Kané, dit Mourlé.
Et là, il faut gagner le match pour continuer. Rien que pour gagner. On joue pour avoir la victoire. Rien que la victoire. Le Burkina, c'est une très bonne équipe. Dans tous les tournois de petites catégories, le Burkina, ils font partie. Donc, c'est une équipe à prendre au sérieux. C'est un match très difficile à jouer. C'est le réalisme qui va faire la différence. On le souhaite de notre côté.
Tous ces propos ont été recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant sur place à Maradi, au Niger.
Et avant de nous quitter, la NBA, championnat de basketball nord-américain, Harden continue sa série avec Houston.
Oui, le MVP, meilleur joueur de la NBA, James Harden, a poursuivi son incroyable série de grosses performances avec encore 44 points pour Houston qui est allé s'imposer à Phoenix 118-110, tandis que Denver a marqué le pas, largement battu à Détroit 129-103. À New York, l'ancien président Bill Clinton a assisté à la victoire des Milwaukee Bucks sur le parquet de Brooklyn 113-94. Dans les autres rencontres de la nuit dernière, Indiana s'est imposé de justesse face à la Nouvelle-Orléans 109-107. Dans le duel des mal classé à l'Est, Atlanta a fait la course en tête tout le match pour s'imposer sur le parquet des Washington Wizards 137-129. Et enfin, Sacramento a enchaîné une 3e victoire contre San Antonio 127-112 pour se rapprocher de la 8e place à l'Ouest.
Merci Yacouba pour cette actualité sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec et Eric Manirakiza. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
Le président Donald Trump devrait insister sur les bons résultats de l'économie américaine lors de son discours sur l'état de l'Union ce soir. Il va aussi rappeler la nécessité d'avoir une barrière ou un mur à la frontière avec le Mexique. Ce discours qui aurait dû se tenir le 29 janvier a été reporté à cause de la fermeture partielle du gouvernement, la plus longue de l'histoire des États-Unis. Les débats hier au Congrès nous donnent déjà un aperçu de ce que sera ce discours. Un reportage de Zlatika Ok avec le récit d'Abdelhaman Dia.
Le président Trump va se présenter comme un dirigeant fort qui respecte ses promesses électorales. Le patron républicain du Sénat, Mitch McConnell, nous donne déjà un indice. L'économie va dominer le discours de Trump.
Les politiques des républicains qui favorisent la croissance et une économie favorable à la famille ont aidé à la création d'emplois. Les petites entreprises connaissent un boom et la classe moyenne continue d'en récolter les fruits.
Mais les démocrates sont prêts à apporter la réplique, comme l'indique déjà le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer.
Le président va dire sans surprise que l'état de notre union est fort. Mais en vérité, l'économie sous Trump est un échec pour la classe moyenne. Sa politique de santé est un échec pour les familles américaines et son administration est caractérisée par le chaos et l'incompétence.
Le président Trump a déjà reconnu que le Congrès pourrait ne pas allouer de fonds pour la construction d'un mur à la frontière sud, une de ses promesses phares. Donc il pourrait déclarer l'état d'urgence pour contourner le Congrès. Une option que soutient le sénateur républicain Lindsey Graham.
Si les démocrates ne collaborent pas avec lui, je pense qu'il serait mauvais pour les républicains de le saper s'il essaie d'ériger les barrières à la frontière en usant de ses pouvoirs de commandant en chef.
Le président Trump devrait aussi saluer le succès de la médiation américaine en Afghanistan et justifier sa décision de retirer les troupes américaines de ce pays. Paul Ryan, un sénateur républicain du Kentucky, est lui aussi un fervent partisan du retrait américain de l'Afghanistan et de la Syrie.
Nous sommes gagnants à tous les niveaux. Nous avons tué Ben Laden, nous avons détruit les bases terroristes en Afghanistan. Est-ce la pagaille en Afghanistan? Bien sûr que oui. Ça a toujours été la pagaille et ce sera toujours la pagaille.
Mais des parlementaires des deux camps sont opposés au retrait américain. C'est le cas du républicain John Cornyn.
Un de nos collègues, le sénateur de la Floride, Marco Rubio, a dit que le terrorisme, c'est comme une tumeur, comme un cancer. Vous pouvez essayer de vous en débarrasser, mais si vous échouez, ça revient dès que vous baissez la garde.
Le président Trump va aussi mettre en exergue les progrès dans les négociations commerciales avec la Chine et avec la Corée du Nord sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Notre correspondant à Dakar continue la présentation des 5 candidats à la présidentielle du 24 février au Sénégal. Après Hadj Sall hier, il nous brosse aujourd'hui le portrait de Madi Kenyang. Avocat et homme politique, il est le candidat le plus inattendu. Longtemps dans l'ombre du président, de l'ancien président Abdoulaye Wade, ce natif de Saint-Louis espère briguer donc ce suffrage pour pallier l'invalidation de la candidature de Karim Wade, fils de l'ancien président. Son portrait avec Seydina Abagay.
Madi Kenyang est né le 25 septembre 1953 à Saint-Louis. C'est dans cette région qu'il suit sa scolarité au lycée Charles de Gaulle jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Ensuite, il fréquente la faculté de droit de l'université de Dakar avant de faire cap sur Abidjan. À la fin de ses études, il s'inscrit au barreau de Dakar et compte parmi ses clients de grandes entreprises telles que la compagnie sucrière sénégalaise. Rapidement, il devient un proche d'Abdoulaye Wade et finit par être son avocat. En 2000, Abdoulaye Wade accède au pouvoir et place Madi Kenyang à ses côtés. Sous le premier mandat de Wade, il est ministre
de l'Habitat de 2002 à 2003, ministre de l'Énergie et des Mines de 2003 à 2006, puis ministre des Mines et de l'Industrie entre 2006 et 2007. En 2007, justement, Wade est réélu et Modi Kenya monte en grade. De ministre, il passe à ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice de 2007 à 2009, puis ministre d'État, ministre des Affaires étrangères d'octobre 2009 à avril 2012. À la chute du régime libéral, il accueille Wade dans sa villa située au point E, quartier résidentiel de Dakar. La relation idyllique entre Abdoulaye Wade et Modi Kenya va prendre une tournure brusque et inattendue. Craignant l'invalidation de la candidature de Karim Wade, Modi Kenya prend son courage à deux mains et dépose sa candidature pour la présidentielle de 2019, tout en continuant de revendiquer son appartenance au Parti démocratique sénégalais.
J'ai satisfait aux conditions qui concernent le parrainage et qui concernent tant d'autres questions. Karim a eu à franchir le premier cap. L'avenir appartient aux tout puissants et je suis un homme d'honneur. Quand une déclaration est faite, je ferai tout pour la respecter.
Wade estime que son avocat et compagnon l'a trahi en déposant une candidature parallèle à celle de son fils Karim. Le 12 octobre, l'ancien président déménage de chez Modi Kenya, un acte fort qui sonne comme le divorce entre les deux hommes politiques. Aujourd'hui, Modi Kenya fait partie des 5 candidats en lice pour la présidentielle de 2019. Une présidentielle qu'il aborde dans la peau d'un candidat inattendu et qu'on accuse souvent de connivence avec le pouvoir, comme l'indique l'observateur politique Ibrahim Bahoum.
Personne ne l'attendait, ou peu de gens l'attendaient. Et la première chose qu'il réussit, c'est de passer le parrainage. Évidemment, tout de suite, les soupçons commencent à peser. Est-ce qu'il n'est pas un élément avancé du système de Macky Sall pour affaiblir le PDS là-bas? Mais Modi Kenya, son engagement, c'est qu'il n'est pas question que le PDS n'ait pas de candidat. Alors, puisqu'il tient à ce que le PDS ait un candidat, il veut se présenter comme le candidat du PDS, autrement dit celui qui va sauver la maison bleue, comme on dit ici.
Malgré tout, le candidat de la coalition Modi Kenya 2019 espère polariser le vote des libéraux de tous bords pour accéder à la magistrature suprême au soir du 24 février 2019. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
L'ambassade de France à Washington DC a organisé jeudi dernier la Nuit des idées. L'édition 2019 en France et dans 70 autres pays a invité des intellectuels, chercheurs et artistes pour débattre des grands défis de notre temps. De plus en plus de voix s'élèvent en Afrique pour la restitution des objets d'art africains pillés par les colons. Nastasia Peteuil a eu un entretien avec le Sénégalais Felwine Sarr, universitaire et écrivain, co-auteur du rapport sur la restitution de l'art africain commandé par le président français Emmanuel Macron.
Ces œuvres d'art, ces objets, ces artefacts font partie de l'histoire africaine. Et pour les jeunes générations qui ont besoin de se construire, de savoir d'où elles viennent, d'avoir des traces de leur histoire, être en nouveau en face de ces objets, c'est quelque part retrouver la mémoire longue.
Quelle est l'ampleur de cette restitution et quels musées en France sont d'accord et prêts à faire cette restitution?
Les œuvres d'art n'appartiennent pas au musée. Les œuvres d'art appartiennent à l'État. Ils sont dans le domaine national. Donc si l'État, si le vote une loi et décide de restituer, les musées doivent s'exécuter. Le musée du Quai Branly est le musée le plus concerné puisque à lui seul, il a 70 000 œuvres qui viennent du continent. Alors qu'en France, on a au bas mot 90 000 œuvres. Et des pays comme le Bénin ont l'essentiel de l'œuvre de patrimoine au musée du Quai Branly. Et le Bénin est un pays qui est en pointe de la demande de restitution.
Comment est-ce qu'on fait pour que tout se passe bien et que l'art africain soit restitué et conservé là où il devrait l'être?
Sur 54 pays, effectivement, il y a des pays où il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais l'essentiel des pays ont des musées qui fonctionnent, avec des conservateurs qui savent conserver et qui connaissent très bien leur travail. Et nous avons préconisé une restitution à court, moyen et long terme. Et pour le volume d'objets que nous avons préconisé, dont nous avons préconisé la restitution à court terme, on a largement les capacités d'accueil. Et le fait que nous ayons prévu au moyen terme, c'est pour laisser le temps aux pays qui souhaitent récupérer leurs œuvres et qui ne sont pas prêts, qui doivent construire des infrastructures ou des capacités de le faire. Et le long terme, c'est aussi de dire que la fenêtre sur les graisses est ouverte. Et si un pays dans 10 ans dit, c'est maintenant que je vais les demander parce que c'est maintenant que je suis prêt, qu'ils puissent le faire.
Pourquoi est-ce que les Africains qui vont bénéficier de la restitution des arts, est-ce qu'ils vont aller dans les musées?
J'étais à Dakar la semaine du mois dernier, le musée des civilisations noires vient d'ouvrir. 512 visiteurs par jour depuis le début. Abidjan, même chose, ils ont ouvert un musée des civilisations, des milliers d'individus. En fait, dès que l'infrastructure est là, qu'elle est belle, qu'elle est bien faite, qu'elle est attractive, ben les gens y vont. Et j'étais très heureux de voir avant-hier des cartes d'écoliers. Donc je me dis là, il y a une éducation à la pratique. Et d'être dans le musée, de voir des gens normaux, quoi, des familles avec des enfants. Ce n'était pas forcément une élite ou une bourgeoisie.
Felwine Sarr, universitaire et écrivain sénégalais, co-auteur du rapport sur les restitutions de l'art africain.
À votre avis, avec Raissa Girondin, la diaspora africaine est-elle prête à revenir vivre sur le continent? Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, a lancé 2019 l'année du retour. Pendant 12 mois, son pays va organiser des événements pour commémorer les victimes de l'esclavage et rappeler aux Africains de la diaspora que leurs racines se trouvent sur le continent. À votre avis, est-ce une bonne initiative pour inciter au retour? Comment faire participer la diaspora africaine au développement du continent? Réagissez en direct à 18h en temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook. Nous vous rappellerons.
Le pape François a conclu aujourd'hui sa visite historique aux Émirats Unis. Il a pris part à une rencontre religieuse sur la fraternité humaine. À cette occasion, il a co-signé avec Cheikh Ahmed Al-Tayeb de l'Institut Al-Azhar en Égypte un document appelant à la liberté de croyance et à un rejet de la violence commise au nom de la religion. Pour en savoir plus sur la portée de cette visite papale, Timothée Dongman-May a contacté Rachad Antonius, professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal.
Écoutez, elle est très importante à la fois pour la région et pour le monde. Pour la région, elle affirme une reconnaissance mutuelle des diverses religions. Et ça, c'est très important parce que le voisin des Émirats, l'Arabie Saoudite, qui est quand même le voisin le plus puissant, refuse cette reconnaissance, interdit toute religion, toute pratique sur son territoire. Et donc, c'est comme une façon de dire, vous voyez, on est capable de concilier notre culture arabo-musulmane avec cette ouverture. Et ça, c'est un élément important. À l'échelle mondiale, c'est un message envoyé aux gens de partout qu'il faut vraiment que le dialogue est important et que c'est pas au nom de la religion qu'il faut faire la guerre. Donc de ce point de vue, c'est un document très important qui appelle à la reconnaissance mutuelle et qui exhibe dans le texte du document une conscience non seulement religieuse mais sociale. Il affirme que les inégalités de revenus sont mauvaises, qu'il faut lutter pour la justice sociale. Il affirme que les guerres ne peuvent pas être faites au nom de la religion. Il affirme que la citoyenneté est importante, qu'il faut reconnaître les droits de tout le monde. Donc c'est un document qui est important de ce point de vue. Cependant, j'ai quelques critiques aussi, parce que dans l'argumentation, le document une attitude un peu ambivalente sur le fait de ne pas être croyant.
De quel point de vue?
Par exemple, au début du document, il dit il faut arrêter le tourbillon de l'extrémisme athée et agnostique. Ça veut dire qu'il met un peu sur le même pied d'égalité et il renvoie dos à dos la violence faite au nom des religions et le fait d'être athée.
Étant donné cette réaffirmation de la fraternité entre les hommes de foi, comment s'expliquent des résistances comme on observe par exemple en Arabie Saoudite?
Ben, c'est parce que d'abord, c'est pas tout le monde qui reconnaît l'importance de l'Azhar comme autorité religieuse, parce que dans l'islam, contrairement à la chrétienté, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de clergé. Donc on peut dire l'Azhar c'est une opinion parmi d'autres, ça c'est une chose. Ensuite, il y a des facteurs politiques. L'Arabie Saoudite instrumentalise la religion pour justifier la position dominante d'un clan particulier, le clan de Saoud. Donc il y a ça. Ensuite, il y a le fait que de la culture des populations, même s'il y a des autorités religieuses qui disent il faut l'ouverture, bon, c'est bien parce que ça va influencer les gens, mais les gens ont leur propre culture et n'écoutent pas nécessairement les autorités religieuses.
Voilà, c'était Rachad Antonius, professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph. À la présentation, Morgane Guerriec et Eric Manirakiza.
À la console, c'était Michael Dubinsky. Merci principales au monde d'aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente soirée à tous.
VOA Afrique, les infos.